Alors ce matin, après le message que je vais apporter, c'est Marie-Renée donc, qui va témoigner avant son baptême. Alors ce n'est pas une habitude hein, qu'on fasse les baptêmes le dimanche matin, actuellement c'est l'après-midi. Mais bon, on a fait une exception pour les amis hein, d'Anaït et Jean-Claude. Et là, j'ai senti que je pouvais faire une deuxième exception. Donc, c'est l'exception. Hein. Mais voilà, c'est une exception. Pour certaines raisons, bon, le Seigneur m'a montré que c'est ça. Et là, j'ai vraiment un message qui va dans le sens du baptême. Et c'est vrai que j'avais, à un moment donné, un petit peu des doutes. J'ai dit, oh, Marie-Renée, peut-être elle n'est pas prête pour le baptême. Puis le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, non, elle est prête, elle est prête. Hein? Même si elle manque peut-être d'expérience, comme on parle de puissance, hein, de rencontre, mais j'ai senti en elle la foi, hein, la foi profonde. Et ça aussi, c'est un gage d'une expérience avec le Seigneur. Donc, elle va vous donner son témoignage tout à l'heure. Mais auparavant, je voudrais ouvrir la Bible avec vous dans Romains, chapitre 1er. Romains, chapitre 1er. Romains, chapitre 1er. J'ai appris, d'ailleurs, en lisant le... l'histoire de Wesley. Vous connaissez Wesley ? Qui connaissent Wesley ? Il a fondé quel mouvement ? Méthodiste. Alors, habituellement, les mouvements s'appellent du nom de ceux qui les ont initiés. Mais là, méthodiste, ça n'a rien à voir avec Wesley. C'est simplement parce que c'est un sobriquet. On se moquait de lui. Comme les chrétiens, le mot chrétien, on se moquait des chrétiens, des petits christs, des chrétiens. Là aussi, c'est méthodiste, parce qu'il était méthodique. Et donc, ils se sont moqués de Wesley et de Whitfield, parce que les deux travaillent ensemble, Whitfield. Et ils ont sauvé l'Angleterre. C'est des hommes qui ont sauvé au XVIIIe siècle l'Angleterre, qui était dans une dépravation pas possible. Et grâce à leur message du salut en Jésus-Christ, ils ont sauvé l'Angleterre. Et lui s'est converti avec Romains, l'épître aux Romains. Luther aussi s'est converti avec l'épître aux Romains. L'épître aux Romains, c'est une somme, on appelle ça une somme théologique, c'est un ensemble de doctrines qui se trouve dans Romains, dans l'épître aux Romains, où Paul a mis toute la doctrine théologique de la Bible, et on y trouve tout. Et donc on va lire juste les premiers versets de Romains 1, chapitre 1, verset 1er. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la descendance de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi. Et si vous avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour ta parole, qu'elle puisse toucher nos cœurs ce matin et nous aider encore à découvrir les profondeurs de ton évangile. Te prions au nom de Jésus. Amen. Je vais m'attarder sur un verset, parce que je ne peux pas prêcher sur tous ces versets-là. Le verset 4. Il est dit dans le verset 4, d'abord le verset 3, il nous parle de son fils, de Jésus-Christ, qui est né de la descendance de David selon la chair. Ça veut dire que Jésus-Christ, bien sûr, avait une origine humaine et une origine divine. L'origine humaine, c'est au travers de David, parce qu'il a été dit que le fils de Jessé, le fils d'Isaïe, donc au travers de David, eh bien, il y aurait une descendance qui s'assiérait sur ce trône, qui a été donné dans un premier temps à David, qui était selon le cœur de Dieu, mais en vue du Messie. Et donc Jésus-Christ allait s'asseoir sur le trône de David, qui était la représentation du trône du règne de Dieu sur les hommes. Sur les hommes. Parce que Dieu règne sur tout l'univers. On est d'accord? Vous le croyez? Dieu règne sur tout l'univers. Mais Christ est supposé régner sur les hommes. Voyez-vous? Parce qu'il est fils de l'homme. Il est fils de David. Mais en même temps, il est fils de Dieu. Et comment sait-on qu'il est fils de Dieu? Comment les pères de l'Église, comment la première Église naissante au 1er, 2e siècle a traduit cette compréhension de Dieu au travers de la Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Eh bien, simplement parce que là, il est dit, au verset 4, il a été déclaré, fils de Dieu, avec puissance, selon l'Esprit de Dieu, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection entre les morts. Pour comprendre un peu mieux, il faut aller dans Romains chapitre 8, versets 13 et 14. Romains chapitre 8, où nous avons tout le chapitre 8 qui est consacré à cette libération dans l'Esprit, les libérations en Jésus-Christ. Au verset 13, il est dit « Si vous vivez selon la chair », donc dans notre nature humaine, vous allez mourir. Est-ce que quelqu'un parmi vous pense qu'il va échapper à la mort? J'aimerais le connaître. C'est un ange. Apparemment, il n'y a pas d'ange parmi nous, sauf qu'ils sont invisibles. Mais vous qui êtes assis, vous êtes bien assis sur vos chaises, donc vous allez tous passer par la mort. Ok? Ça, c'est une réalité. On essaie de l'évacuer un peu maintenant, mais c'est une réalité. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais, il y a le mais salvateur, le mais qui change tout. Si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, on le dit tous ensemble, si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le problème, c'est que si on prend ce verset tout seul, comme ça, et comme dans l'esprit de ce que Michel vous a dit tout à l'heure, c'est le même esprit que j'utilise. Et si vous voulez faire ce verset-là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout ce que les gens depuis 20 siècles, 2000 ans, ont fait dans la religion chrétienne. C'est-à-dire faire des pèlerinages, faire des efforts pour faire mourir les actions du corps. Il y en a même, je crois que c'est en Espagne qu'ils ont inventé ça. Ça s'appelle, c'est un peu comme quand Jésus a été tapé par les Romains, c'est des fils avec des clous dedans. Ça s'appelle une salle. Non, mais c'est ça, un nom. Enfin, voilà. Ah, c'est un nom que je connais bien et je l'oublie. C'est un nom. Pardon ? C'est la silice. Prendre la silice. Vous savez ce que ça veut dire, prendre la silice ? La silice, c'était un bâton que les chrétiens donc, ont inventé. Hein. Et donc, autour d'un bâton, il y a du cordage, et puis il y a des clous dedans. Et vous frappez. Ça, c'est prendre la silice. Et les chrétiens prenaient la silice, les moines en particulier aussi, prenaient la silice et se tapaient, jusqu'à ce que le sang coule. Parce qu'ils voulaient souffrir pour Jésus. Non, mais, vous voyez, tous les motifs sont bons. Mais les motifs, c'était ça. Ils voulaient faire mourir les actions du corps. Parce que quand le corps y réagissait, que ce soit sur le plan des yeux, de la chair, du sexe et tout ça, voilà, il pensait qu'en prenant la silice, il se mortifiait. Et l'Église catholique, bien sûr, parce que c'est elle qui a vécu le plus longtemps, vous savez, les évangiles qui l'ont montré la même chose. Donc on ne veut pas taper sur les catholiques, mais eux, c'est ceux qui ont la plus longue vie dans le christianisme. Mais voilà, ils ont tout inventé, donc il suffit de regarder et de voir comment la religion peut amener des gens à se flageller, s'auto-flageller, tout ça pour accomplir ce verset. Si vous mortifiez la chair, eh bien, vous allez vivre. C'est comme ça qu'il faut le faire? Tu veux prendre la silice, Fernanda? Toi qui es à côté de l'Espagne, là, tu vois. Oui. Et ça se fait encore, hein, aujourd'hui. Oui. Ah bah donc, vous voyez, j'ai des témoins là. Bon, ça se fait encore aujourd'hui. Prendre la silice. Hein? Bon. Hello? Il y a un film qui s'appelle comme ça. Il y a des jeunes qui veulent prendre la silice, là? Non? Vous n'êtes pas volontaire? Et oui, mais il y en a qui veulent être tellement, tellement, tellement pour le Seigneur. Attention, hein, je ne les critique pas. Je ne les critique pas. Hein. Je ne les juge pas. Je dis simplement, ça existe, et c'est par, ça part de cette bonne intention de mortifier la chair. Alors, je continue, c'est une petite digression, verset 5. Car, c'est le car qui change tout. Mais où est donc Omnicar? Je me rappelle de ça. Bon. Une conjonction qui introduit une nouvelle pensée. Alors, car, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'aimerais bien qu'on le dise à voix haute, tous ensemble, parce que là, si cette vérité vous pénètre, ça va vous transformer. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Encore une fois. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que chacun d'entre vous, vous êtes fils de Dieu. Alors, une petite parenthèse, fils ou fille, c'est pareil, hein. Sauf que dans le ciel, il n'y a plus de sexe, donc forcément, il n'y a que fils. Voilà. C'est la seule. Donc, vous, les filles, vous êtes fils aussi. Hein. C'est-à-dire, vous descendez de Dieu. Okay. Et vous êtes de Dieu. Donc, pour être fils de Dieu, il y en a qui veulent être fils de Dieu ici? Mais vous êtes fils de Dieu. Mais, pas n'importe quand, pas n'importe comment, et pas à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous êtes fils de Dieu, c'est événementiel, c'est circonstanciel, c'est lié au car et au mais. Fernanda, à quel moment es-tu fils de Dieu? Je te laisse réfléchir, simplement pour vous dire, aujourd'hui, la religion mondiale, universelle, qui se répand dans tout l'univers, qui de la Russie en Chine, en Asie, en Amérique du Sud, c'est mieux que le ballon rond parce que là c'est partagé par tout le monde. C'est quoi? Quelle religion? Aujourd'hui. C'est pas l'islam. C'est pas l'islam. C'est non. La religion, je parle. Le nouvel âge. New Age. Il y en a jamais qui ont entendu New Age? Nouvel âge? Non? C'est ça. C'est la religion universelle. C'est une religion que tout le monde peut pratiquer. Oh là, c'est très facile. C'est très facile. Nouvel âge, c'est très facile. La doctrine du nouvel âge, c'est tu es Dieu. Tu ne savais pas? Ben, je te le dis. Donc ils vous l'enseignent. Eh oui, c'est ça le nouvel âge. Ils disent tu es Dieu. C'est marqué dans la Bible. Alors la Bible, tout, c'est marqué dans le Coran, c'est marqué partout. Tu es Dieu. Ah bon, je savais pas. Mais oui, c'est parce que ta conscience, tu n'es pas conscient que tu es Dieu. Donc je vais te l'apprendre. Et le nouvel âge passe partout, par les pierres, par les chamans, par le bouddhisme, partout, par le cinéma, dans Hollywood. Le nouvel âge, c'est partout dans les films d'Hollywood, partout. Vous n'en êtes pas du tout conscient. Mais si vous regardez les critiques des films, le scénario, comment c'est monté, c'est le nouvel âge. C'est la nouvelle religion. Et l'enseignement, c'est ça. Vous êtes fils de Dieu. Waouh! Quelle révélation! Je suis fils de Dieu. Bah oui. Je vais t'aider là. Vous voyez, hein, tu fais un peu de chakra, tu fais des trucs, voilà. Et hop, tu vas te sentir mieux. Et voilà. Et c'est ça. Ça passe dans la médecine, ça passe dans les sciences, ça passe dans le. Partout. Ouvrez un peu les yeux. Vous allez voir partout il est nouvel. Je ferme la parenthèse. Ici. C'est la même vérité, mais pas de la même façon. Ah, Satan, il est malin. Il dit la même chose. Il dit, vous êtes fils de Dieu. Ben, comment? Avec Satan, le nouvel âge, c'est, oh, il faut que je prenne conscience que je suis fils de Dieu. Ah, bah oui, je savais pas. Ah, bah oui, bah, je peux faire ça. Alors, bien sûr, l'occulte passe par tous les moyens dans ce truc-là, mais sans que vous le sachiez. Ah, bah tiens, d'un seul coup, vous découvrez des propriétés que vous avez. Waouh! Chose qui se passe. Waouh! Je suis fils de Dieu. Vous voyez? Et petit à petit, vous montez comme ça, comme fils de Dieu. Non, mais je plaisante à peine. Hein. Je pourrais vous faire une démonstration là-dessus qui est effarante. Là, il est dit, vous êtes fils de Dieu. Mais par quels moyens nous sommes fils de Dieu? Sylviane, toi qui m'écoutes. Voilà, il y a une condition. C'est ce qu'on a dit, c'est si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Alors moi j'aime bien le torrent qui purifie parce que la première leçon, c'est ça, marcher par l'Esprit. Et c'est le fondement du chrétien. Nous sommes fils, tu es fils de, je ne sais pas quel est ton nom, de ton père ou de ta mère, tu es fils de monsieur et madame. Fernanda, je ne sais pas quoi, portugais, fils de Meyer, fils intérieur de Meyer. Voilà. Ok, biologique, mais spirituel. Je suis fils de Dieu lorsque je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Jean-Claude, est-ce que toutes les secondes tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Chaque seconde de ta vie. Si tu me réponds pas, je pose la question à Naït. Ouais, mais la réalité, c'est pas ça. Hein? T'es obligé de demander pardon à Anaïde. Bon, ben là, je me suis énervé. Pardon? Toi aussi? Oh, quelle humilité. Moi, je vise les hommes, hein, parce que je ne veux pas trop toucher aux femmes. C'est pas mon domaine. Mais bon, nous sommes tous pareils. Hein? Mais à chaque fois que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Mais sinon, tu ne l'es pas. Vous voyez, c'est ça la différence avec le nouvel âge. Le nouvel âge, lui, il est fils de Dieu, parce qu'au moment, sa conscience lui révèle qu'il est fils de Dieu, et qu'il a des propriétés, des caractéristiques, des possibilités insoupçonnées, etc. Et voilà, il y a même des ovnis qui vont venir, enfin voilà. Tout est dans le nouvel âge. Et oui, c'est l'homme de Nietzsche, là, comme il s'appelle, le surhomme. Voilà. C'est à ça que ça conduit. Le surhomme. Nous, on n'est pas des surhommes. On est simplement des hommes de la même nature. Élie était de la même nature que nous. Hein. Jésus, il était humain, mais il n'a pas péché, mais il était divin par déclaration. On va voir tout à l'heure, je vais aller très vite parce que j'avance pas là. Donc Romains 8, 13 à 14, il dit que nous sommes fils de Dieu quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons dire « Abba, Père ». Le terme Abba, Père, Papa, ça veut dire une reconnaissance de la paternité de Dieu pour nous. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas le dire parce que leur père, ceci, cela, etc. Mais il faut être libéré de cela parce que le fondement de notre filialité avec Dieu, c'est que le Saint-Esprit nous permet de dire Abba, Père, Papa. Merci parce que tu es mon Père. Il est dit au verset 16, toujours de Romains 8. Il est dit que l'Esprit, Romains 8, il est dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants, fils de Dieu. Amen. Jésus est celui qui baptise de l'Esprit. Amen. Parce que c'est l'Esprit qui nous conduit à reconnaître et à être fils de Dieu. C'est à cette seule condition. Le fait que nous soyons fils et que nous pouvons appeler Dieu Père est largement, largement décrit dans l'Écriture, y compris dans l'Ancien Testament. Moïse, dans le Deutéronome, rappelle, Deutéronome, ça veut dire deuxième loi, rappelle l'ordre, à l'ordre, le peuple de Dieu en lui disant « L'Éternel n'est-il pas ton Père, ton Créateur ?» C'est déjà dans Deutéronome, au chapitre 32, verset 6. Par nature, nous sommes par nature fils de Dieu en tant qu'il est notre créateur. Parce que nous sommes celui qui a été créé. Et cette proposition est bien sûr évidente pour tous. Il semble que notre vie nous appartient. Nous devons nous rappeler que cela n'est pas notre mérite, parce qu'il nous a été donné. Et Romains 8, 31 dit « Nous sommes redevables à Dieu qui est esprit pour vivre selon l'esprit. » Ça, les hommes de ce monde, et en particulier les Français qui se disent athées, eh bien, ils sont dans la folie de croire qu'ils n'ont pas été créés. Ils le savent très bien qu'ils sont créés. Ils ne viennent pas de Mars ni de Vénus. Hein, ils ont été créés. Et il y a un créateur. Et donc c'est de la folie de dire que Dieu n'existe pas. notre filialité, nous sommes fils par l'existence, grâce à notre Père qui nous a créés. Nous sommes des créatures de Dieu. Ça, c'est la première définition. La deuxième, c'est que le Fils, il est aimé tendrement par le Père. L'amour d'un Père pour son Fils, l'amour de Dieu pour ceux qui le craignent, c'est dans Psaume 103, verset 13. Si nous sommes fils de Dieu, nous sommes aimés du Père. Ça, c'est une vérité. Le terme « Père » utilisé pour Dieu rappelle l'amour de Dieu pour les hommes, tel que Jésus l'a annoncé. Et Jésus avait un rapport avec son Père. Et c'est le Nouveau Testament qui nous fait découvrir le Père au travers de Jésus. L'amour inconditionnel et total, plein de pardon, plein de tendresse, regardez le Fils prodigue. Jean insiste particulièrement sur ce point. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1er, l'apôtre dit « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » Vous savez, l'enfant en Orient, ça c'est important de le situer dans le contexte de l'Orient ancien, ne jouissait que d'un très faible statut social. D'ailleurs, la France aussi, paraît-il, je ne suis pas spécialiste du droit de l'enfant, est un peu en retard sur d'autres pays. Hein. De ce côté-là, au niveau de l'enfance, c'est pas terrible. Hein. Je vois des gens qui hochent la tête, qui sont dans le social, qui en savent plus que moi. Mais dans l'Orient ancien, l'enfant ne jouissait que d'un très faible statut social, complètement dépendant de ses parents. Il était pour eux pratiquement un serviteur, voire un esclave à bon marché, sur lequel ils avaient le droit de vie et de mort. Ainsi, être l'enfant de quelqu'un suppose une totale dépendance à l'égard de cette personne. Se reconnaître enfant de Dieu entraîne que nous le reconnaissions comme notre maître, comme celui à qui nous devons tout. C'est pour ça que cette similitude est importante pour nous qui voulons être enfants de Dieu. Nous devons être à son service, comme l'enfant de l'Orient à l'époque. C'est pourquoi le roi Akaz, dans 2 Rois, chapitre 16, verset 7, le roi de Juda, il va dire sa soumission au roi d'Assyrie. Vous savez, les Assyriens, très souvent, ils dominaient Israël. Et il dit, je suis ton serviteur et ton fils. Pourquoi il dit ton fils? Ce n'est pas son fils. Mais c'est par cette analogie d'esclave. Je suis ton fils, je suis esclave. Fais de moi ce que tu veux, parce qu'il avait perdu la guerre. Il était soumis au roi d'Assyrie. Dans Matthieu, chapitre 21, verset 28, Jésus donne cette parabole qui va dans le même sens. Il dit, mon enfant, va travailler dans ma vigne. L'enfant, il est là pour ça. Il faut qu'il obéisse. Le père lui dit, va travailler dans la vigne. Il travaille dans la vigne, il ne discute pas. Aujourd'hui, hein, ça ne marche pas comme ça, hein. Les enfants discutent. Déjà à mon époque, hein, c'était connu. Ma mère, qui est alsacienne, il y avait de l'ordre à l'époque. Elle critiquait les pères parisiens. Non, j'en suis un. Ouais, les parisiens, ils élèvent mal leurs enfants. Pour le faire descendre un mur, ils disent « Je te donne un sou si tu descends. » Ça ne se passait pas comme ça chez nous. Recevez pas un sou, hein. Recevez des fessées. Hein. Ainsi, être fils de Dieu est un privilège, mais c'est aussi un devoir de soumission, d'obéissance et de service. Mais contrairement aux serviteurs, alors il y a la part de l'enfant en Orient hein, qui est très soumis, mais en même temps, il faut savoir qu'il n'est pas que serviteur, il n'est pas qu'esclave, puisque l'enfant hérite de son père. Et là, c'est la deuxième côté. Différent de l'enfant, même au Moyen-Orient, l'enfant hérite de son père. Et cet héritage est un cadeau immérité. Si le père était riche, ben l'enfant était riche, parce qu'il héritait de son père. Ce que Dieu nous donne, c'est le salut. C'est bien plus que la richesse matérielle. Il nous donne le salut, la vie éternelle. Mais un héritage n'est pas gagné par celui qui en profite. Il le reçoit gratuitement. Si seulement il appartient à la famille. Il faut appartenir à la famille pour hériter. Et l'héritage est une richesse indue, sans aucune considération de qualité personnelle. Même un enfant qui vaut rien, en fait, il hérite. C'est ça l'héritage. Il n'a pas de mérite accumulé, il le reçoit. C'est une bonne image du salut en Jésus-Christ, qui n'est pas une récompense, mais un héritage, un don gratuit. C'est la seule condition que nous devions remplir pour simplement être reconnus comme enfants de Dieu. Dans Galates, chapitre 4, verset 7, Paul dira « Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. » Troisième chose, la première, c'est l'existence. On existe parce que Dieu nous a créés. Deuxième, on est aimé parce que Dieu est notre Père. Troisièmement, l'enfant ressemble à son Père. Vous avez déjà vu les enfants? Ils ressemblent à leur Père. À leur mère aussi. Hein, mais... Alors des fois, on dit « Ah, qui ressemble à petit ?» Bon, on ne sait pas trop. Voilà. Mais l'enfant ressemble, disons, aux parents, hein, qui sont pères. Il est vrai que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais alors, il y a quelque chose de particulier dans l'humanité, dans l'être humain. Dieu a créé les anges. Il a créé certainement d'autres choses, des êtres célestes, on ne connaît pas. Mais la Bible parle des anges, en tout cas. Et il a créé les hommes. Quelle est la particularité entre un ange, il y a beaucoup de particularités, mais entre un ange et un homme, entre un humain et un être angélique? Une particularité, il n'y a que celle-là qui les différencie totalement, entre un ange et un homme.
L'homme de péché, l'ange de pas péché.
Voilà. Alors, je dirais la même chose en disant l'homme est libre. Il a la liberté. Alors là, on est champion, hein. La liberté française, liberté, égalité, voilà. Mais on n'est pas les seuls, hein. Il y en a qui nous suivent, hein. Ils aiment bien. Tout le monde aime la liberté. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours précurseurs, parce qu'on a toujours des bonnes idées. On n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des idées. Et tout le monde nous suit, hein. On est leader, hein. Voilà. Liberté, liberté, liberté chérie. L'homme est libre. Les anges ne sont pas libres. C'est la différence. Et la liberté. Parce que il est créé, l'homme est créé à l'image de Dieu, qui est libre. Vous croyez que Dieu est libre? Il crée, voilà, c'est ça la particularité de Dieu. Et l'homme est libre aussi. Mais libre de faire des bêtises, libre de faire des bonnes choses. Libre. Et la liberté, il a même la liberté, alors écoutez bien, alors j'ai appris quelque chose par Olivier, mais je ne savais pas qu'il disait quelque chose qui est dans l'air du temps. Enfin, je sais qu'il est dans l'air du temps, mais je n'avais pas à ce point-là. Olivier m'a dit, ah, moi au boulot, j'ai un mini-moi. Je dis, ah bon, mini-moi, c'est quoi ça? Mini-moi. Ah mais oui, j'ai un mini-moi. Bon. Alors je croyais qu'il parlait, voilà, qu'il avait inventé ça, en fait, il n'a pas inventé. Enfin, je ne sais pas si c'était inventé, je ne t'ai pas parlé. Et en fait, j'ai appris cette semaine que David Cameron et le prince Henri, je crois que c'est Henri le tout jeune, là. Non? Rectifiez-moi, hein, je ne sais pas. Le prince qui va aller sur le trône d'Angleterre, là, le fils. Je ne sais plus lequel. George, je crois. Enfin, ils se sont présentés à la télévision avec des mini-mois. Il y en a qui n'ont pas entendu parler ça, de mini-mois? Oh là, je suis en avance sur vous. Alors, waouh! Waouh! Je suis in, alors. Bah, allez-y, sur Internet. Alors, il paraît que c'est des poupées qui sont inventées par les Japonais. Alors, les Japonais, c'est aussi son précurseur. Hein. Et vous pouvez vous faire scanner le visage. Alors, Fernanda, voilà, tu peux y aller. Je ne sais pas combien ça coûte. Hein, mais... Tu te scannes le visage en 3D. Tu envoies ça à un gros ordinateur. Et ils te sortent une poupée qui est Fernanda. Mini-moi. Une poupée. Et alors, c'est fantastique, Fernanda. À partir de cette poupée, tu peux rectifier l'image. Génial, ça. Génial. Si tu t'aimes pas comme ça, tu peux rectifier. Voilà. Et David Cameron et le prince, ils sont présentés avec des mini-mois. Oui, donc c'est quand même, voilà, si eux, ils montrent l'exemple, toute l'Angleterre va suivre. Voilà. La possibilité de déterminer son image, c'est fantastique. Voyez-vous, où l'homme arrive actuellement, c'est qu'il peut faire sa propre image. Il n'a plus besoin de Dieu. Voyez, c'est là où conduit la séparation avec Dieu, la liberté. Je suis libre de ressembler à qui je veux. Il nous est possible de corrompre l'image divine. Nous sommes naturellement, ou au contraire, à chercher à la rendre meilleure. Alors, C.S. Lewis, c'est un des plus grands théologiens du XXe siècle. Il a dit quelque chose qui fait froid dans le dos. Il a dit, un chrétien, il peut devenir meilleur, mais il peut devenir pire. Voilà. Et c'est une pensée profonde quand on y réfléchit. Et c'est ça que je veux dire, c'est que on peut devenir meilleur ou pire. Est-ce que vous voulez devenir meilleur ou pire? Meilleur. Mais ça dépend si nous sommes conduits par l'esprit. Parce que l'esprit va toujours nous conduire vers le meilleur, vous êtes d'accord? Puisque nous sommes fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire être l'attribut de Dieu, comme Dieu. Donc nous sommes parfaits et nous serons parfaits. Mais si nous nous laissons aller, eh bien, nous devenons pires. Et un chrétien peut être pire parce que bon, il a un vocabulaire hein, qui peut spiritualiser. Mais ça, c'est un autre message. Nous sommes appelés à être les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, Éphésiens 5, verset 1er. Et pour cela, nous devons essayer d'incarner les qualités qui sont connues comme étant celles de Dieu. L'amour, le pardon, la miséricorde, la gentillesse, tout ce qui est en Dieu, nous devons le refléter et devons être les témoins de ce qu'il est. Aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du mal à ceux qui nous haïssent, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier. C'est bien, vous suivez. J'ai voulu tester. Hein. Non. Prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Dans Matthieu 5, 44, c'est un passage de l'Écriture. Car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Pour imiter Dieu, nous sommes invités à vivre de la même manière que Dieu vit, c'est-à-dire dans l'Esprit. L'Esprit de Dieu est celui qui conduit, il a conduit Jésus. Hein, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il était conduit par l'Esprit de Dieu et il était fils de Dieu. Et nous sommes conduits par Dieu aussi si nous marchons dans l'Esprit. C'est une vérité qui a été développée par les pères de l'Église, les théologiens des tout premiers siècles. Alors, ça a été mal compris, mais c'est la divinisation, c'est-à-dire comment le but suprême de l'humanité, c'est devenir comme Dieu, mais de cette manière-là. Mais on peut très facilement le contourner parce que Satan est derrière. Alors j'ai terminé mon message parce qu'il n'est pas du tout fini, mais ce qui est important, et c'est en relation avec le baptême, je vais laisser la place à Marie-Renée, c'est que la grande différence entre Jésus et nous, Jésus est fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu, conduits par l'Esprit, c'est par quel moyen sommes-nous fils de Dieu? Jésus, il l'est par nature. Il est d'essence divine, par nature. Et nous le sommes par... Non,
adoption.
Par adoption. Nature, adoption. Nous sommes des fils et des filles adoptés. Amen. Nous sommes adoptés. C'est ça la grande différence. L'adoption, il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Nous ne sommes pas par nature. Par nature, nous sommes pécheurs. Par nature, nous allons vers le mal. Par nature, nous avons hérité d'une nature de péché. Mais par adoption, nous sommes quoi? Nous sommes fils de Dieu par le Saint-Esprit. Alors, marchez par l'Esprit et vous ne marcherez pas par la chair. La bonne nouvelle, c'est ce que nous appelons la grâce de Dieu, c'est que Dieu est disposé à nous adopter comme ses enfants. Alors que nous sommes mauvais, alors que nous sommes pécheurs, alors que nous ne faisons pas les choses bien, et Michel l'a introduit ce matin, donc je n'insiste pas là-dessus. Ainsi donc, cette vérité que nous sommes enfants de Dieu peut se lire de deux manières complémentaires, à la fois une bonne nouvelle et à la fois une grâce. Vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, Galates 4:6, mais c'est aussi un appel à la conversion. Un appel, une exhortation. Soyez des enfants sans reproche au milieu d'une génération perverse, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est Philippiens 2:15. Voyez-vous, donc il y a une acceptation de la grâce et il y a quelque chose à faire. C'est des efforts à faire, mais pas la silice. parce que nous sommes déjà acceptés, mais c'est marcher par l'Esprit et tendre. Et c'est pour ça que l'Église, elle existe. Pourquoi est-ce qu'il y a une Église ? Bon, bien sûr, il y a beaucoup de raisons, je ne vais pas faire un autre message sur l'Église, mais en grande partie, c'est à cause de ça. Des chrétiens qui veulent vivre tout seuls, alors, ils ne sont pas embêtés, hein ? Ils sont tout seuls, ils sont chez eux. Hein, j'admire Jean-Claude et Anaïs, hein, voilà, qui acceptent de venir. Ils ne sont pas obligés. Hein. Et ils pourraient dire, bon, bah, nous, on est en France, hein, c'est le Club Med. Hein, voilà. Non, ils viennent dans l'Église. Et ils acceptent d'être repris. C'est pas facile. Mais dans une Église, on est repris. Hein. Pourquoi ? Bah, parce qu'on n'est pas parfait. Pourquoi moi je suis marié à Michel ? Parce que j'aime être repris. Non. Alors attends.
Oh, c'est un lapsus.
Non, j'ai rien dit. Non, vous avez rien entendu. Ok. Non, mais une église, c'est des cailloux qui se frottent. C'est le fer qui s'aiguise, le fer contre le fer, c'est tous ces passages-là, etc. Ok ? À condition qu'on l'accepte. Mais il y a beaucoup qui ne l'acceptent pas. Forcément, dans le monde, on ne l'accepte plus. Hein. Un enfant qui est repris, ouais, claque la porte et s'en va. Eh oui, parce que c'est le monde. Okay. Une femme qui est reprise par son mari, ouais, l'inverse, ouais, à l'école, ouais, ouais, je suis libre, moi. Je suis grand, n'a rien à me dire. Eh oui, mais ça rentre dans le monde. Dans l'Église. Eh oui, parce que nous sommes dans la chair. Okay. Marcher par l'esprit. Et quand vous êtes repris par un frère ou une sœur, bien sûr, sur le coup, dites pas merci parce que ce serait peut-être hypocrite. Mais quand vous voyez les bienfaits que ça fait, tu dis, ah oui, c'est vrai, j'avais besoin de ça. Hein? Bon, mais on le dit des fois des années plus tard. Hein? Mais le principal, c'est que ça soit fait pour que nous puissions devenir et être des fils et des filles de Dieu. Amen. Vous voulez être des fils et des filles de Dieu? Prions un instant. Seigneur, nous te remercions pour le plan merveilleux que tu as développé pour nous en tant qu'humains, Seigneur, où les anges veulent plonger leur regard parce qu'ils ne comprennent pas cette grâce, ils ne comprennent pas ce pardon, ils ne comprennent pas ce salut en Jésus-Christ, parce qu'ils ne le vivent pas. Mais Seigneur, nous qui vivons la grâce, nous qui savons que c'est immérité, nous le savons tous que nous sommes pécheurs, et Seigneur, de découvrir que tu nous adoptes comme tes enfants, que tu oublies tout ce que nous avons confessé et tu nous prends dans tes bras comme le Père qui l'a fait avec le Fils prodigue, Seigneur, c'est quelque chose qui nous ébahit, Seigneur, qui nous ouvre les yeux et qui nous ouvre le cœur à recevoir ta grâce. Alors Seigneur, aide-nous en cette matinée à chacun d'ouvrir notre cœur à recevoir ta grâce et ton amour. Et sentir ton amour pour chacun de nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, je laisse la